Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, et bien surtout, n'hésitez pas. Vous nous appelez ici à Paris. Nos experts, nos envoyés spéciaux, nos correspondants vous répondent en direct. 33 9 693 693 70. Et puis, dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat. Nous parlerons tout à l'heure de l'Organisation internationale de la francophonie. Le sommet s'est ouvert ce matin à Erevan, en Arménie, en présence d'une trentaine de chefs d'État. D'ailleurs, le président Macron vient tout juste de terminer son discours à la tribune. Alors, qui de la Canadienne Michaëlle Jean ou de la Rwandaise Louise Mushikiwabo sera désigné secrétaire général de la francophonie pour les quatre prochaines années? Visiblement, tout porte à croire que ce poste reviendra à une personnalité africaine. Louise Mushikiwabo part, disons-le, largement favorite. Un choix qui fait débat, qui pose question, d'autant que la langue française est marginalisée au Rwanda et le pays est régulièrement pointé du doigt par des ONG pour non-respect de la démocratie et des droits de l'homme. Vos réactions évidemment nous intéressent. Vous êtes très nombreux sur la page Facebook de l'émission et déjà un certain nombre à patienter au standard pour prendre la parole donc dans une trentaine de minutes. D'abord donc, vos questions, et on va commencer tiens avec des questions sur ce sommet qui vient de s'ouvrir à Erevan, des questions sur la désignation de la secrétaire générale de la francophonie. Bonjour Marius.
Bonjour Monsieur Juan et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Vous nous appelez de Côte d'Ivoire, nous vous écoutons.
Ok, le Canada et le Québec ont annoncé qu'ils ne soutenaient plus la candidature de Michaëlle Jean pour un second mandat à la tête de l'OIF. Alors, je voudrais savoir pourquoi son pays abandonne finalement son soutien à Michaëlle Jean. Comment a-t-elle réagi? Va-t-elle s'abstenir ou maintenir sa candidature?
Ah, pour l'instant, en tout cas, elle n'envisage pas de retirer sa candidature, mais effectivement, mardi soir, donc 48 heures avant l'ouverture du sommet, le Canada annonce qu'il retire son soutien à la candidature de Michaëlle Jean. Michaëlle Jean qui perd donc son principal soutien. Bonjour Jean-Pierre Monza.
Bonjour Juan Gomez.
Merci d'être avec nous en direct d'Erevan. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RFI. Que s'est-il passé, Jean-Pierre? On sait que ces derniers mois, le Premier ministre canadien défendait la candidature de sa compatriote. Et puis finalement, on a appris donc mardi soir que ce n'était plus le cas.
Alors pour répondre à la question de Marius, j'ai envie de vous citer le commentaire de l'un des porte-parole de Michaëlle Jean qui nous disait, je le cite, « Lorsque les Français veulent quelque chose, ils y mettent le paquet et c'est impressionnant ». On peut donc penser que si le Canada a finalement lâché après avoir si longtemps soutenu pendant des mois Michaëlle Jean, c'est qu'en effet Paris a mis tout le poids de sa diplomatie dans la balance. C'est donc d'abord une négociation politique qui est à l'œuvre, et c'est au niveau le plus élevé des présidents, président Macron et le Premier ministre canadien, que tout s'est joué. Donc, si Justin Trudeau finalement a lâché, c'est d'abord parce qu'Emmanuel Macron a été très, je dirais, persuasif. Alors évidemment, la question, c'est quels sont les arguments avancés par Paris? On peut en citer plusieurs, et je vais commencer par le dernier, c'est visiblement celui qui a tout débloqué. C'est la question, figurez-vous, de l'Arabie Saoudite. Riyad était candidat à l'entrée dans l'OIF. Mais les relations entre l'Arabie Saoudite et le Canada sont exécrables, et l'ambassadeur canadien a même été expulsé il y a 3 mois en raison de propos jugés trop critiques envers la monarchie saoudienne. Or, il y a 24 heures, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Paris écrit à l'OIF en disant que son pays retire finalement sa candidature et qu'on verra plus tard. Et juste après, le Canada annonce qu'il lâche Michaëlle Jean. On peut donc penser que la France a pesé pour que Riyad fasse machine arrière, une sorte de deal, et qu'en échange de l'intervention française, eh bien le Canada a accepté de céder sur l'OIF. Et puis, on dit aussi que Paris aurait promis à Ottawa de l'aider à obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, là aussi, une contrepartie au lâchage de Michaël Jean par l'OIF.
Donc il y aurait
par le Canada, pardon.
Oui, par le Canada. Il y aurait eu donc des marchandages entre la France, le Canada. Le Canada qui veut effectivement obtenir ce siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et forcément, ce pays a besoin du soutien de la France, mais aussi des soutiens des pays africains. Et combattre une candidature africaine serait évidemment malvenu pour le Canada. Comment Michaël Jean a-t-elle réagi? Son porte-parole s'est exprimé encore ce matin sur l'antenne de RFI. Il l'a décrit comme une femme combattante, prête à aller jusqu'au bout. En tout cas, sa candidature, elle est toujours maintenue.
Absolument. Michaël Jean a très mal réagi depuis le début d'ailleurs. Dès qu'elle a su que son siège était convoité par le Rwanda, elle l'a mal pris. C'est une femme de caractère, un peu trop parfois, disent certains fonctionnaires de l'OIF. Et donc, elle a peu apprécié qu'on veuille la mettre à l'écart. L'un de ses proches nous dit d'ailleurs que tout cela a soudé une équipe autour d'elle, une équipe et sa patronne combative. Voilà les mots qui reviennent en effet. Le combat, parce qu'il n'est donc pas question de faire demi-tour. On n'a pas fait pour ça, pour se retirer maintenant, disent-ils. Elle ira donc jusqu'au bout. Et ce qu'elle veut finalement, c'est provoquer, sinon la crise, en tout cas le débat au sein même de l'Assemblée des dirigeants. Elle veut leur dire son bilan. Elle veut savoir ce qu'on lui reproche. Elle veut aussi sans doute mettre les pieds dans le plat en abordant ouvertement devant les chefs d'État la question des droits de l'homme au Rwanda. Oui. Donc non, pas question de se retirer.
Elle ira donc jusqu'au bout. Restez avec nous encore quelques minutes, Jean-Pierre Monza. On remercie Marius de nous avoir appelé d'Abidjan. Nous accueillons Taïrou. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Vous nous appelez de Bamako.
Oui.
C'est bien ça. Nous vous écoutons avec Jean-Pierre Monza.
Mais alors, pourquoi Emmanuel Macron a soutenu très vite la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo alors qu'il s'agit d'un pays anglophone?
Alors, bonne question, effectivement. Vous êtes nombreux à l'avoir posée, Jean-Pierre Monza. C'est vrai que le soutien apporté par Emmanuel Macron à cette candidature a suscité incompréhension et étonnement.
Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ça n'a pas été aussi vite que ça. Ça dure depuis des mois. Je dirais presque depuis l'arrivée en fonction d'Emmanuel Macron. Les relations entre le président français et Michaël Jean ne sont pas excellentes. Sur un plan personnel, dit-on, mais aussi parce que Paris aimerait recentrer la francophonie sur un rôle, disons, plus culturel et plus axé sur la promotion de la langue française. D'ailleurs, il l'a redit Emmanuel Macron il y a quelques instants dans son discours. Michaël Jean, elle fait trop politique et ça agace un peu à l'Élysée. Donc, dès le début, l'affaire était mal engagée et Emmanuel Macron a demandé qu'on lui fasse des propositions pour trouver un ou une remplaçante. Plusieurs noms ont circulé. Et finalement, celui du Rwanda est arrivé sur la table. Les réseaux diplomatiques se sont alors mis en marche et Kigali a été contacté. Ça a d'abord été la surprise. Les Rwandais ne l'ont pas caché. On est étonné, dit Kigali, parce que nos relations avec la France ne sont pas très bonnes. Alors que Paris nous propose le poste de secrétaire général, c'est un peu déroutant. Mais très vite, les Rwandais ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient attiré de tout cela. Le Rwanda y a vu une belle occasion pour renforcer sa place au sein d'une organisation multilatérale. C'est l'occasion pour les Rwandais d'avoir une voix qui porte dans une enceinte internationale. Puis c'est une occasion politique, mais aussi économique formidable, parce que Kigali y voit un moyen de conquérir de nouveaux marchés.
Ouais. Et en quelques mots, Jean-Pierre Monza, c'est aussi un moyen pour la France de normaliser peu à peu ses relations diplomatiques avec le Rwanda.
Bien sûr, parce que on sait que les relations sont mauvaises. Paris n'a pas d'ambassadeur sur place depuis de nombreuses années. Et puis depuis le génocide en 94, les Rwandais n'ont de cesse de reprocher à la France d'avoir soutenu le régime génocidaire. Donc l'OIF pourrait permettre aux uns et aux autres de se rapprocher. Et les plus cyniques vont même jusqu'à dire que la France pourrait utiliser l'OIF pour servir ses intérêts supérieurs en Afrique centrale et donc reprendre pied dans une région dans laquelle elle a perdu un peu de son influence.
Oui. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci à vous d'avoir été en direct d'Erevan et un grand merci à Boris Vichit pour les moyens techniques. On aura évidemment l'occasion tout à l'heure de vous donner la parole, vous qui nous écoutez à travers le monde, sur la perspective de revoir une personnalité africaine à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie en la personne de Louise Mushikiwabo. D'ailleurs, le choix de cette Rwandaise est-il compatible avec les valeurs qui sont défendues par la francophonie? 33 9 693 693 70. On accueille Ibrahim. Bonjour.
Bonjour Monsieur Wan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions? Allô, Ibrahim. A-t-on un petit problème de téléphone avec...
Bonjour, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Allez-y. Bon, visiblement, on a un problème, Ibrahim. Je vais donc me faire votre porte-parole. Et c'est Nicolas Falaise du service international de RFI qui va vous répondre. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Ça fait maintenant 9 jours que nous sommes sans nouvelles de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien. Évidemment, ça suscite des interrogations, des questions. Ibrahim nous dit, un certain nombre d'indications laisseraient penser qu'il a été tué quand il s'est rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Mais les autorités turques ne le confirment pas pour l'instant. Alors, quelles sont les preuves qui indiqueraient l'assassinat de ce journaliste dans le consulat, nous demande Ibrahim.
Alors, de preuves, il n'y en a pas à ce jour. Hein. On a le constat d'une disparition extrêmement mystérieuse, disparition signalée par les proches de Jamal Khashoggi et par le journal américain Washington Post, dans lequel il écrivait. Alors, au-delà de cet entourage qui s'inquiète et qui interpelle les autorités saoudiennes et américaines notamment, les éléments dont on dispose sont de trois hommes. Ordre, hein. Il y a les déclarations des officiels turcs, à commencer par le président Erdogan lui-même, des fuites provenant de la police turque et des révélations des médias turcs essentiellement. Alors, sans preuve matérielle, on peut citer une accumulation d'éléments troublants qui nous proviennent de ces différentes sources. Par exemple, la vidéosurveillance qui montre que Jamal Khashoggi entre le mardi 2 octobre dans le consulat saoudien sans en ressortir, pas d'image le montrant en sortir du bâtiment.
Ces images ont été diffusées hier par plusieurs télévisions turques.
Oui, et l'image absente, c'est celle de sa sortie. Et c'est pour ça que le président Erdogan demande ce matin aux autorités saoudiennes, si elles en disposent, de diffuser, de mettre à disposition cette image manquante à ce jour. L'autre élément troublant parmi d'autres hein, que l'on peut citer, c'est les informations à la fois anonyme en provenance de sources policières turques et de médias turcs qui font état d'un groupe de d'une quinzaine de ressortissants saoudiens qui auraient voyagé le jour de la disparition de Jamal Khashoggi. Mais il ne s'agit pas d'éléments matériels, encore une fois. Ce qui pourrait faire avancer l'enquête, ce serait une fouille du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Mardi, cette semaine, les autorités de Riyad ont donné leur accord de principe pour une telle fouille. On ne sait pas quand la police turque pourra travailler dans le bâtiment si c'est bien le cas, mais il s'agirait bien sûr d'une évolution majeure dans cette enquête.
En tout cas, on voit bien que cette affaire est devenue un sujet de préoccupation internationale.
Oui, évoqué ces derniers jours, on le disait, par plusieurs dirigeants, y compris Donald Trump hier, qui a accentué la pression sur Riyad en demandant des explications à l'Arabie Saoudite et en annonçant que la fiancée de Jamal Khashoggi serait prochainement reçue à la Maison Blanche. Un signal fort hein, adressé à l'Arabie Saoudite, qui est pourtant un allié historique très fort des États-Unis, une relation qui est même en plein renouveau depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.
Ibrahim nous demandait également pour quelles raisons ce journaliste aurait-il été tué.
Alors, faute de preuves, on peut effectivement réfléchir au mobile. Hein. Peut-être que le plus simple, c'est de lire ce que Jamal Khashoggi écrivait dans le Washington Post il y a tout juste un an, au moment où il s'exilait aux États-Unis, estimant qu'il ne pouvait pas rester dans son pays, l'Arabie Saoudite. Il écrivait ceci. J'ai quitté ma maison, ma famille, mon travail, je m'exprime. Le contraire serait une trahison de ceux qui sont en prison. Je peux parler alors que beaucoup ne le peuvent pas. Je veux que vous sachiez que l'Arabie Saoudite n'a pas toujours été comme cela. Les Saoudiens méritent mieux. Jamal Khashoggi, très critique de l'évolution du pouvoir saoudien, incarné par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il était critique des évolutions sur le plan intérieur, mais aussi de l'action internationale de l'Arabie Saoudite, qu'il s'agisse du boycott du Qatar ou de la guerre au Yémen. Cela a-t-il entraîné la volonté de le faire disparaître ? Aujourd'hui, c'est un scénario.
À suivre. Merci beaucoup, Nicolas Falaise. J'espère qu'Ibrahim a pu, malgré les problèmes de réseau téléphone, écouter vos explications. En tout cas, sachez-le, vous pouvez écouter, réécouter toutes les explications de nos experts sur la page Facebook de l'émission, mais aussi sur notre application Pure Radio. À bientôt, Nicolas Falaise. 10h25 à Paris, nous reste 5 minutes. Elle s'installe dans ce studio. Elle est la chef de la rédaction brésilienne de RFI. Bonjour Marie-Amélie Alencar.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez demandé de venir car nous avons encore et toujours des questions sur l'élection présidentielle qui visiblement passionne nos auditeurs. Fernando nous appelle de Comé, c'est au Bénin. Bonjour Fernando.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Ok. Après le premier tour des élections présidentielles au Brésil le dimanche passé, le candidat de l'extrême, Bolsonaro, est arrivé largement suivi par Fernando Haddad. À cet effet, comment peut-on expliquer cette percée de l'extrême droite dans un pays multiracial comme le Brésil?
Question voilà pertinente. Mais c'est une bonne question, Marie-Émilie Alencar. C'est vrai qu'on s'interroge comment ce candidat d'extrême droite qui est nostalgique de la dictature, qui est raciste, homophobe, misogyne, comment peut-on expliquer sa popularité?
C'est vrai, c'est une question que les Français me posent souvent en ces moments. Cela peut paraître étonnant, mais il faut savoir que le racisme contre les Noirs est très présent au Brésil. Le Brésil a été le dernier pays du monde à abolir l'esclavage, 1888. Donc, et cela laisse des traces. L'image du Brésil comme étant le pays où la cohabitation entre Noirs, Blancs et Métis est parfaite est vraiment un mythe. Nous avons beaucoup plus de Noirs pauvres que de Noirs riches et beaucoup moins de Noirs qui occupent des positions importantes dans la société. Donc l'ascension de Jair Bolsonaro, raciste affiché, n'est pas si étonnante, même si plus de 50% de la population brésilienne est considérée noire. Et ce qui peut paraître encore plus étonnant est que même si la majorité des votes pour Bolsonaro vient des populations blanches riches, etc., une partie de la population noire a aussi voté pour lui.
Ah oui ?
Oui.
Pour quelles raisons, on le sait ?
Ben, écoutez, il y a toujours les mêmes raisons qui touchent tout le monde. Bon, c'est un candidat anti-système, c'est les nouveaux... qui va finir, pour les gens, il va finir avec la violence, il va finir avec la corruption. Et il y a...
On précise qu'au sein de la classe politique, il est quasiment le seul aujourd'hui à ne figurer dans aucun scandale de corruption. Contrairement à d'autres candidats.
Oui. Mais je pense que la corruption, c'est une des raisons, mais n'explique pas tout.
Il y a la sécurité, vous le disiez.
Il y a les sécurités.
Les gens en ont marre, justement, de cette violence armée, puisqu'il y a des gangs qui se battent tous les jours.
Oui, il y a 60 000 homicides par an au Brésil. Donc, c'est un record, triste record. Mais il y a aussi ces côtés un peu racistes. Il a soulevé le couvercle de quelque chose, d'un sentiment qui est là. Voilà. Ouais. Donc c'est une raison, mais c'est très étonnant les gens qui me demandent pourquoi dans un pays comme le Brésil, il y a un candidat raciste.
Et d'extrême droite. Donc Fernando, vous aviez une autre question.
Oui, du coup, j'aimerais savoir si le candidat de la gauche, Fernando Haddad, a-t-il encore des chances d'être élu président dans ce second tour s'il fait des alliances avec les candidats malheureux du premier tour.
Il a déjà tendu la main à certains candidats, notamment le candidat de centre-gauche, Fernando Haddad.
Fernando Haddad, mais en fait, il est dans une position, c'est plutôt les autres qui doivent tendre la main vers Haddad. Ouais. Il est dans une situation très difficile.
On rappelle quand même qu'il y a 17 points d'écart entre, au premier tour, entre Bolsonaro et Haddad.
Juste, il y a un sondage qui est sorti hier soir. Ouais. Donc, il y a 58% des intentions de vote à Bolsonaro et 42% pour Haddad. Bon. Donc, ça va être très difficile. Il y a énormément de voix qu'il doit conquérir. En ce qui concerne le report des voix, la situation aussi est difficile. Il pourrait compter sur les électeurs de Ciro Gomes, peut-être c'est à lui que...
Oui, c'est exactement Ciro Gomes, de centre-gauche.
Voilà, mais Ciro Gomes, il a eu que 12,4% au premier tour. Et ce qu'ils ont dit hier dans ce même sondage, c'est que seulement 46% des électeurs de Ciro voteraient pour lui. Donc, c'est très, très difficile. Il a eu l'appui de trois petits partis de gauche qui ne pèsent pas grand-chose dans les scénarios. Et quelques électeurs de l'écologiste Marina Silva pourraient voter pour Haddad, mais elle-même, elle n'a pas donné la consigne de vote.
Donc, Jair Bolsonaro est clairement le grand favori du second tour.
Il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute, à condition peut-être qu'il accepte de débattre à la télévision. Pour l'instant, il refuse.
Voilà, il refuse. Et Haddad a même fait une blague. Je pourrais aller discuter avec lui, à l'infirmerie.
À l'infirmerie, puisque effectivement, Bolsonaro ne cesse de dire « Oh, écoutez, je suis invalide, je ne peux pas me déplacer sur les plateaux de télévision pour débattre. » Et donc, son concurrent, rival Haddad, se propose d'aller à l'infirmerie. Merci beaucoup, Marie-Émilie Alencar. Et on suit évidemment cette campagne électorale passionnante au Brésil. Il est 10h30 ici à Paris.